Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on est rassemblés. Puis je te remercie pour le bon temps de louange qu'on a eu ce matin. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, pour nous restaurer, nous fortifier, nous faire du bien, Seigneur. Puis je te remercie aussi pour ta parole qui est là encore pour nous édifier, nous fortifier, nous délivrer, nous guérir, nous transformer, nous donner de l'assurance, de la confiance, une espérance. Puis merci de ce que tu vas encore nous équiper avec tes beaux versets de la parole. On remet nos ventres entre tes mains, parle à nos cœurs, continue d'agir dans nos vies, on te laisse pleine liberté. Puis je te remercie pour tout dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Amen.
On a commencé une mini-série dernièrement sur « Saisissez les promesses de Dieu ». Il y a tellement de sujets dans la parole de Dieu que la Bible nous dit de prier pour ça ou pour ça. Puis c'est des choses, c'est déjà garanti que Dieu va le faire. C'est déjà garanti pour plein de sujets de prière. Là, à date, on a vu que Dieu avait promis qu'il nous pourvoirait financièrement. On a vu aussi qu'on avait l'assurance du salut. Puis c'est des versets, c'est des promesses, faut appuyer notre, bâtir notre foi sur les versets de la parole de Dieu. Le sujet qu'on va voir aujourd'hui pour, qui est encore dans l'idée de saisir les promesses de Dieu, c'est pour avoir l'assurance que Dieu vous accompagne. Avez-vous l'assurance que Dieu est avec vous?
Oui.
Il y en a qui peuvent dire oui. Puis il y en a qui répondent pas, peut-être qu'ils se disent, je suis pas sûr, je ne sais pas si vraiment Dieu m'accompagne, si Dieu est avec moi. Puis doutez-vous de la proximité de la présence de Dieu. Que Dieu vous accompagne, c'est une chose, mais savoir que Dieu est dans le ciel, puis que moi je suis sur la terre, puis là il me regarde, ça on est prêt à l'admettre, mais de dire qu'il est proche, proche, proche de moi. Puis il me regarde là dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vis, dans tout ce que je dis, dans qui m'accompagne à chaque pas que je fais sur cette terre. Ce matin, on a pris notre automobile. Moi, je suis parti de Beauharnois, je me suis emmené ici à Saint-Rémy. Une demi-heure de temps de déplacement, puis Dieu a toujours été avec moi, tout le long du déplacement. Chaque pas qu'on fait, Dieu y est là. Mais sommes-nous convaincus que Dieu nous accompagne dans chaque pas qu'on fait?
Non. Parce que des fois, je suis prêt pour la vie.
Parce que si on était convaincus,
on pêcherait plus. On essaierait, on ferait des efforts. C'est qu'on oublie, on oublie. Pourtant, Dieu nous a confirmé dans sa parole, Dieu nous l'a confirmé dans sa parole qu'il était pour être avec nous à tous les jours. Dieu l'a promis qu'il était pour être là à chaque jour. Est-ce que moi, je le crois? Est-ce que j'ai une assurance, une confiance qui me regarde et qu'il est tout près de moi? Dieu veut nous amener à cela. Puis pourtant, en plus, il nous le montre qu'il est là. Il y a plein de petits signes qu'on vit régulièrement, des exaucements de prière, où on sent quelque chose dans la louange, où on est touché par Dieu. Des fois, c'est une guérison, des fois, c'est d'autres choses. Dieu lui demande par plein de petites affaires. C'est sûr, s'il voudrait, il nous aurait apparu, puis il nous apparaîtrait chaque jour comme qu'il a apparu à Moïse. Puis là, on se dirait, je suis sûr qu'il est avec moi, il me jase à tous les jours, il m'a apparu. Mais Dieu n'a pas choisi que le système soit basé de même. Il voulait que qu'on marche par la foi. C'est par la foi, c'est pas par la vue. C'est par une ferme assurance, même si tu vois pas. La foi, là, elle nous permet de saisir l'invisible. L'être humain ne voit que les choses visibles. Puis là, il essaye de se convaincre par ce qu'il voit. Puis là, il essaye d'avoir de l'assurance ou de la confiance dans ce qu'il voit qui lui appartient, de ce qu'il voit qui est avec lui, de son chiffre dans son compte de banque, un gros chiffre, ça, il voit ça. Ça lui donne de l'assurance ou de la confiance. Mais s'il voit des grosses dettes, ça, il perd de l'assurance et des confiances, puis là, il pogne un down. On marche par la vue, mais la foi est pour nous amener à voir et à croire dans l'invisible, dans ce qui se voit pas avec nos yeux. Puis Dieu veut nous amener à ce qu'on soit capable de voir cette dimension-là. C'est la première chose que les chrétiens doivent chercher à augmenter dans leur vie, la foi. Parce que sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. C'est impossible de lui être agréable. Faut qu'on ait de la foi. Puis la foi aussi, c'est une ferme assurance. Je vous dis, avez-vous l'assurance que Dieu est avec vous? Avez-vous cette foi-là qui est là? On doit apprendre à mettre notre confiance dans les écrits de la parole de Dieu. Parce qu'on marche trop par la vue. C'est pas des farces, on marche par la vue, même des chrétiens de longue date, par bout, quand ils veillent pas sur le manien qu'ils pensent, là. Ils se demandent encore si Dieu est avec eux autres parce qu'ils ont pas vu tel exaucement de prière dans leur vie. Une fois qu'ils voient pas un exaucement, puis ils pognent un découragement, puis là, ils pensent que Dieu l'a abandonné. C'est pas de Dieu, ça, là. C'est là-dessus qu'il faut travailler, frères et sœurs. On croit pas que Dieu est avec nous parce que nous le voyons de nos yeux. Nous avons une assurance que Dieu est avec nous parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Ça fait toute une différence. Peu importe ce que tu vis comme sentiment ou émotion, ou ce que tu vis, tu regardes avec tes yeux humains, tu dis, Dieu ne peut pas être avec moi, ça va assez mal, je suis dans la rue, j'ai tout perdu, j'ai fait faillite, j'ai perdu ma job, ma femme m'a quitté, puis là, Dieu n'est pas avec moi. Puis à cause qu'on est éprouvé, on est prêt à remettre en question tous les versets de la parole de Dieu, on les balaye. À cause qu'on croit que les circonstances que nous voyons sont plus une garantie ou une confiance que les promesses de Dieu que Dieu a données dans sa parole. Dieu veut qu'on apprenne à mettre confiance en sa parole. Qu'est-ce que Dieu a dit? Peu importe si ça va bien, si ça va pas bien. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ça la question. Dans 2 Corinthiens 5, 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on marche avec une pleine assurance en le Dieu invisible, puis peu importe ce qu'on voit autour. Peu importe la situation qu'on est présentement. Si tu appartiens à Dieu, Dieu est avec toi. Si tu le sens pas, tu n'as pas d'émotion, un feeling, un buzz, parce que tu as loué le Seigneur, puis tu t'attendais un buzz, tu n'as pas eu de buzz, puis tu penses que Dieu n'est pas là. C'est vrai. C'est pas des farces, c'est ce que je dis là. Puis ça, c'est un piège du diable. On marche pas par les sentiments. On marche pas par les émotions. On marche pas par la vue. On marche par la foi. La foi, c'est une ferme assurance dans les promesses de notre Dieu. Une confiance absolue. Il est écrit. Si c'est écrit, c'est fait. C'est là. C'est du garanti. Il n'y a rien pour changer ça. Puis même si les circonstances paraissent pas qu'on est dans l'état de toute d'avoir reçu tout ce qui vient de Dieu, on a quand même la confiance que Dieu a tout en contrôle, puis que Dieu va renverser les situations pour nous amener à arriver à rentrer dans les promesses terrestres et les promesses célestes.
Amen.
Donc, il est important de se nourrir de la parole de Dieu pour l'augmenter, notre foi.
Yes.
Amen.
Frères et sœurs, il est important qu'on lise la Bible pour mettre nos yeux, pas parce qu'on marche par la vue, mais la seule place qu'on marche par la vue, c'est par la vue des versets qu'on voit. Ça devrait être notre seule foi, notre seule place qu'on marche par la vue. Où la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on reçoit dans nos oreilles, puis ce qu'on entend vient de où? De la parole de Dieu. Que tu la lises ou que tu l'entendes, c'est un verset, c'est du solide, puis c'est là-dedans qu'on met notre confiance. Il est important pour augmenter notre connaissance de la parole, il faut la méditer, l'apprendre par cœur, puis commencer à la confesser. Ben, comment est-ce qu'on... T'es dans une situation difficile. Jésus, savais-tu par cœur le verset? Il est écrit, puis il a répondu au diable. Mais si t'en rappelles plus qu'est-ce qui est écrit, comment est-ce que tu vas être capable d'y répondre? Tu sais même pas c'est quoi la pensée de Dieu. Il est important qu'on l'apprenne. Puis dans le temps de Jésus, là, la majorité du monde ne savait pas lire. Plus 9 sur 10 ne savait pas lire. Il allait au temple, puis il y a quelqu'un qui faisait la lecture. On voit ça que Jésus s'est élevé pour faire la lecture. L'idée, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui savait lire, qui lisait pour les autres, c'est de même qu'il apprenait la parole, mais il dit, j'insère ta parole dans mon cœur. C'est qu'il l'apprenait par cœur. Il faut l'apprendre, il faut apprendre les versets, les promesses aussi. Puis après ça, on doit mettre notre confiance dans sa parole. C'est beau de l'avoir ici, mais si on n'a pas une confiance qui se bâtit dans ce qui a été dit, on n'a pas cette assurance-là, là, on marche encore par la vue, si on met pas notre confiance dans les promesses, on est encore en train de mettre notre confiance dans nos capacités, dans les autres, ou dans notre compte de banque, ou dans notre richesse, ou dans nos biens, ou dans notre bon job. On met notre confiance en autre chose, si on la met pas en Dieu. C'est sûr qu'on marche avec confiance. Mais on marche dans quelle confiance? La confiance en quoi? Saisir ses promesses pour avoir l'assurance que Dieu nous accompagne. Ben là, il y a des versets qui nous en parlent dans la parole de Dieu. Beaucoup de versets qui nous parlent que Dieu nous accompagne, que Dieu est avec nous. Ben on va les lire tantôt, ça va nous faire du bien. Mais Dieu n'accompagne pas tout le monde. Ouch! Il voudrait accompagner tout le monde dans leur marche. Il voudrait que tout le monde puisse marcher en pleine relation avec lui. Mais il faut que, premièrement, que tu y aies donné ta vie. Dans la Bible, c'est écrit, c'est encore une déclaration de Dieu, puis je dois mettre croire à 100%, Dieu a dit que, puis là, à cause que c'est écrit, c'est une vérité, que tout le monde sont privés de la gloire de Dieu quand tu es dans le péché. Puis quand tu es privé, ça veut dire que tu n'as pas les actions surnaturelles de la présence de Dieu qui t'accompagne, puis qui te bénit, puis qui te guide, puis qui te fortifie, puis qui te parle, puis qui te montre le chemin, puis qui te protège. Puis toutes les promesses ne sont pas en action dans quelqu'un qui appartient pas à Dieu. Quelqu'un qui n'a pas décidé de suivre Jésus-Christ, qui n'a pas décidé d'accepter Jésus comme son sauveur personnel pour être sauvé, il marche encore dans ses péchés, il marche encore dans la rébellion. Quand tu es dans la rébellion, tu es privé de la gloire de Dieu. Tu es privé de tout ce que Dieu voulait te donner. C'est pour ça qu'il faut s'empresser à y donner notre vie, puis à l'accepter Jésus, puis à le confesser qu'on y croit. Faut changer de camp. On est dans le camp de l'ennemi, par défaut, on vit au monde dans le camp de l'ennemi. On a vécu toute notre jeunesse dans la rébellion contre Dieu, on a fait plein de péchés, puis ça nous a encore séparés davantage d'avec Dieu. Puis là, on a besoin de revenir à Dieu. On était tous perdus, ça nous dit dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. On était tous séparés. On était tous morts spirituellement à cause de nos péchés. C'est grave, frères et sœurs, l'état général de l'ensemble des humains. Quand une personne te dit, « Ah, ben moi, je l'ai jamais vu Dieu. » Mais il a raison de dire qu'il n'a jamais vu Dieu. Il ne pouvait pas le voir. Puis il ne pouvait pas voir le Saint-Esprit. Il ne le peut le voir parce qu'il ne peut pas le connaître, parce que justement, il ne le voit point. Il y a ceux qui le reçoivent, là, ils voient le Saint-Esprit. Ils peuvent témoigner de ce que le Saint-Esprit agit. Mais le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Ils connaissent pas Dieu, connaissent pas Jésus-Christ. Fait que quand ils parlent de Dieu, là, ils sont réticents. Puis là, ils vont dire, « Ouais, mais c'est qui Dieu? » Puis là, ils vont te nommer Krishna, Bouddha, n'importe qui. Ils vont te nommer n'importe quel Dieu. Ils savent pas c'est qui est Dieu. C'est pour ça que les gens ont besoin de la révélation de la parole de Dieu. Mais la bonne nouvelle, même si on est que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça veut dire, même si tu es mort spirituellement, sache que Dieu t'en colle les mains. Il tend ses bras, puis tout grand ouvert, puis il dit, viens à moi. On peut avoir le pardon de nos péchés, on peut être lavé de tous nos péchés, on peut recevoir la vie éternelle comme un cadeau que Dieu nous donne. Puis tout le monde sont les bienvenus. Savez-vous à quel moment qu'on le reçoit, le Saint-Esprit, qu'on reçoit Dieu dans notre vie pour que Dieu soit en communion avec nous? C'est quand on accepte Jésus-Christ. On est de nouveau. C'est là que le Saint-Esprit rentre dans ta vie. C'est là que la proximité de Dieu devient évidente. C'est là que ça commence, la communion avec Dieu. Avoir l'assurance que Dieu est là parce que l'Esprit de Dieu est en toi et il te parle.
Amen.
Dans Actes 2, 38, je le ramène souvent parce que moi, j'aime parler des choses de base pour le salut. Ça dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Dieu te donne un don, un cadeau, c'est son Saint-Esprit, puis tu reçois pas juste le Saint-Esprit, tu reçois le pardon de tes péchés et tu reçois le Saint-Esprit. Tu ne pouvais pas recevoir le Saint-Esprit sans passer par le pardon. Pardon, et pour ça, faut que tu te repentes. Quand une personne réalise qu'elle est pécheur, qu'elle réalise qu'elle est perdue, elle réalise qu'elle est sans Christ, sans Dieu dans le monde, elle réalise qu'elle est sans les promesses de Dieu, puis elle réalise c'est à cause de ses péchés, puis si elle réalise que Jésus a tout payé pour qu'elle puisse être pardonnée, c'est d'aller à Jésus le plus vite possible, puis « Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés, puis je le reconnais que t'es mort sur la croix pour pardonner mes péchés, ton sang qui était versé, c'était dans le but de me purifier, puis t'es ressuscité pour me sauver. Je t'accepte comme mon sauveur, je t'accepte comme mon Seigneur. » À partir de ce moment-là, il te pardonne, puis il te donne le Saint-Esprit. Amen. Le Dieu qui habite dans le ciel, dans les plus hautes, les plus grandes hauteurs qui existent, ben on peut pas le voir ni l'atteindre par nous-mêmes. Mais lui est descendu, puis il décide de rentrer en toi. Il rentre dans toi. Le Saint-Esprit rentre en toi. Là, à partir de ce moment-là, il y a une communion qui s'installe. Tu es en contact. Dieu te parle, puis toi, tu y parles. Puis à chaque pas que tu fais dans ta vie, il t'accompagne. Amen. Il est là. Toujours. Amen. Tous les jours. Amen. Jusqu'à la fin du monde. Amen. Faut le croire, c'est écrit. Là, tout ça, là, c'est dans le but de dissiper tous nos doutes. Le diable, c'est le spécialiste de mettre des doutes. Ouais, il faut le voir pour le croire. Puis Jésus lui dit le contraire. Heureux celui qui croira sans voir. Gloire à Dieu. La Bible dans Jean 1:12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ça a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu Jésus. Puis en recevant Jésus, on a reçu le Saint-Esprit. Gloire à Dieu! Je suis devenu un enfant de Dieu. Avez-vous l'assurance d'être un enfant de Dieu? Parce que vous l'avez reçu. Vous avez pris le choix. C'est écrit, j'ai pris le choix. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ça a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu. Dans Éphésiens 2, 13, ça nous dit, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » On était tous éloignés de Dieu, mais à cause du sang de Jésus, on s'est rapprochés, Dieu. Nous sommes rapprochés et Dieu s'est rapproché. « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. » Fait qu'à première place, faut se rendre jusqu'à Jésus, puis Jésus fait les autres pas. Approchons-nous de lui, puis il s'approchera de nous. C'est par le sang de Jésus que le rapprochement a été possible, que la communion a pu être possible. Le recevoir Dieu dans ta vie, pas juste dans ta vie, en parlant de ma vie, c'est ma vie, oui, mais c'est où ça, ma vie? C'est en moi. Il est rentré en moi. Ça dit que mon corps est devenu le temple du Saint-Esprit qui habite en moi. Tous ceux qui ont reçu Jésus, la proximité, tu peux pas être plus proche qu'en toi. Ce meuble-là, il est proche de moi, mais il est encore à 6 pouces de moi. Il est proche, mais il est encore plus proche que ça. Là, je me suis collé sur le meuble. Le meuble est proche, il est à 0 pouce de moi. Je suis à côté dessus. Mais il est encore loin, il est encore plus proche que ça, qui rentrera en moi. Dieu est entré en chacun de nous lorsqu'on s'est converti. Il est-tu assez proche? Tu peux-tu avoir plus proche que ça? On peut-tu sentir une plus grande proximité? Il peut-tu être plus proche? Non, il ne peut pas être plus proche. Il est au plus proche de qu'est-ce qui ne pourra pas être plus proche. Il est en nous, comme nous sommes en lui. En même temps, gloire à Dieu. mais juste pour un temps. La nourriture est juste... Ouais, mais des fois, ça... si on ne rentre pas dans ce sujet-là. Gloire à Dieu. Dieu nous a donné une preuve qu'il est là par son esprit qu'il nous a donné. Dans 1 Jean 4,13, « Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. » On le sait que je demeure en lui et lui en moi parce que son esprit est là en dedans de moi. Gloire à Dieu, c'est extraordinaire. C'est des beaux versets, ça, là. Ça augmente-tu notre confiance que Dieu est là? Écoutez bien le prochain verset, là. La Bible nous dit de s'attacher fermement à la foi en la parole de Dieu qui nous déclare ces choses-là. La Bible nous le dit de s'accrocher fermement. Je vais vous lire Colossiens 2,7. Puis ça, je le lis dans la version Le Sommeur, est encore plus riche, comme plus facile à comprendre. Enracinez-vous en lui, en Jésus. Construisez toute votre vie sur lui. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Conformez-vous à la foi qu'on vous a enseigné. Ça veut dire, restons dans ce qu'on a entendu. Notre foi doit être enracinée dans ce qui nous a été enseigné. On a-tu cette confiance-là de ce qui nous a été enseigné, que Dieu est avec nous? À cause de quoi? À cause de ce que j'ai ressenti un matin quand je me suis levé? À cause de notre foi en quoi? La foi dans les versets de la parole de Dieu. À cause que c'est écrit que Dieu est là, il n'y a rien qui peut changer ça. Il n'y a rien qui peut changer ça. Le diable ne peut pas changer ça. On s'en fout de ce que les hommes disent. Nous autres, ce qu'on dit, ce que Dieu a dit, c'est ça renverse tout ce que les hommes disent. Ben, ou faux? Des fois, ils sont convaincants. Oui, c'est vrai, ils peuvent nous mêler. Mais nous, il faut être convaincus que qu'est-ce qui est écrit là, c'est 100% du vrai. Si je suis pas convaincu comme ça, je suis même pas sûr d'aller au ciel. C'est encore écrit là qu'il y a un ciel. C'est encore écrit là qu'il y a un paradis. C'est encore écrit là-dedans le chemin comment faire pour aller au paradis. C'est encore écrit là-dedans que Jésus, c'est lui qui a tout accompli. C'est écrit là-dedans le chemin par lequel que je dois prendre pour me rendre. Si je doute dans certaines phrases, puis je dis que c'est des hommes qui l'ont écrit, bien, tout le reste, on peut dire que c'est des hommes qui l'ont écrit, puis on n'aura aucune foi. Faut dissiper les doutes, puis dire, la parole de Dieu, le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront point, que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Tout ce que Jésus a écrit, il dit l'Écriture ne peut être abolie. Tout ce qui est là va s'accomplir, qu'on y croit, qu'on y croit pas. Qu'est-ce qu'on a à gagner de douter? À rien. Qu'est-ce qu'on a à gagner de croire? Tout. On a tout à gagner. Gloire à Dieu. Pour combien de temps Dieu a-t-il dit qu'il demeurerait en nous? Amen. Jean 14,16, il dit, « Moi, je prierai le Père, puis vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Éternellement. La promesse de Jésus est nous donner le Saint-Esprit pour qu'il demeure éternellement. Ça veut dire qu'il n'y avait pas l'intention de l'enlever. Sa promesse est éternelle. Là, je vois qu'il y en a qui sont assis sur leurs chaises, puis ils ont comme, ouais, qu'est-ce qu'il fait des autres versets? Parce qu'il y a des versets qui parlent, est-ce qu'il y a des conditions? Bonne question. Est-ce qu'il y a des conditions aussi? Jésus dit, qu'il lève là le Saint-Esprit, c'est pour qu'il soit éternellement avec vous. Mais est-ce qu'il a établi des conditions? Quelles sont les conditions pour garder cette promesse? C'est ça qui est la bonne question. Parce que c'est ça qui fait douter le monde, là. S'ils ressentent pas le matin, ils ressentent pas qu'ils sont en contact, qu'ils pensent que Dieu les a abandonnés. C'est pas ce qu'on ressent. C'est pas ce qu'on pense. C'est pas ce que Pierre-Jean-Jacques dit. C'est qu'est-ce que Dieu dit. C'est ça qui est important. Colossiens 1:21. Allez lire ce passage-là. Afin que votre foi soit basée non dans mes paroles, mais dans la parole de Dieu. Colossiens 1:21. Une minute. Il y en a qui ne sont pas arrivés. Ils ont perdu le doigté pour ouvrir le Bible rapidement. Lisez-les donc dans votre traduction.
C'est la summer,
parfait.
Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu.
Ah, juste là. Autrefois, avant d'accepter Jésus, vous étiez exclus de la présence de Dieu.
Par nos pensées. Vous étiez ses ennemis et à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant Dieu, le verset 22, mais maintenant Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré, qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui.
OK. Là, avant, autrefois, on était étrangers, on était ennemis, on était éloigné de Dieu à cause de nos péchés. Puis là, ça dit que Dieu nous a donné, par Jésus-Christ, l'ouverture d'entrer dans la vie éternelle puis d'avoir tout gratuitement. Là, l'autre verset compte. Oui. Là, écoutez bien celle-là. Si, oups, il y a une condition, là. Si, j'ai déjà entendu, il n'y a pas de condition dans la Bible. Je regrette, la Bible est pleine de conditions. Toutes les promesses de Dieu sont conditionnelles. Puis vous allez voir que le « si » là est important.
Il faut bien sûr. Demeurez dans la foi. Elle est le fondement sur lequel vous avez été établi. Tenez-vous-y fermement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Cette bonne nouvelle, vous l'avez entendue. Elle a été proclamée parmi toutes les créatures sous le ciel. Et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur.
Oui. Ça nous dit dans Louis II, il y a un si. Il y a un si décrit, mais. Mais ça veut dire, c'est toujours conditionnel à que vous reteniez fermement la profession de votre foi. Que vous demeuriez fondé, inébranlable dans la foi. Ça veut dire, tu l'as le salut, mais demeure profondément ferme dans la foi. Parce que on marche par la foi et non par la vue. C'est notre foi qui nous sauve. Amen. Dieu, toutes les promesses de la Bible, c'est par la foi qu'on les saisit, puis il faut demeurer fondé et inébranlable dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. Le sang de vous détourner, c'est là aussi la condition. Quand tu veux recevoir le Saint-Esprit, tu passes par Jésus, l'accès est ouvert, puis Jésus te pardonne, puis te donne le Saint-Esprit, puis il rentre en toi. La proximité de Dieu, elle ne peut pas être plus proche que ça. Tu vis en communion, puis il dit sa promesse, afin vous le recevez, le Saint-Esprit, pour qu'il soit avec vous éternellement. Mais, dans d'autres versets, conditionnellement à ce que vous restez ferme, inébranlable dans la foi, sans vous détourner de cette foi. Ceux qui abandonnent le Seigneur, c'est là que ça se corse. Là, on peut attrister le Saint-Esprit, on peut l'éteindre, on peut le blasphémer, on peut en être séparé. Mais, même si la séparation n'est pas instantanée, Qu'est-ce qui est arrivé au serviteur qui avait enterré son talent? Lui, il l'avait encore quand que Jésus il était demandé de rendre compte. Il l'avait enterré, lui. Il a enlevé son talent puis il l'a donné à celui qui n'avait 10. Le point est, persévérons dans une ferme assurance, une ferme confiance, sans nous détourner de la foi, que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chose qui sauve. Restez ferme là-dessus, vous ne perdrez jamais le Saint-Esprit. Il va demeurer éternellement avec vous, que vous le ressentez, que vous ne le ressentez pas. Après ça, c'est juste une question d'être rempli ou pas rempli. Mais il est là pareil. Il est, même si t'es pas rempli, il est là pareil, puis il demeure éternellement avec toi. Amen. Si t'es pas rempli, il y a des choses que tu vivras pas. Mais il est là pareil. Puis tu vas avoir marché par la foi pareil. C'est pour ça qu'il y a des églises qui parlent pas du baptême du Saint-Esprit, puis d'être rempli du Saint-Esprit. Ils disent, tu l'as reçu quand t'as accepté Jésus, puis ils leur demandent plus le reste de leur vie, mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas été nés de nouveau. Oui, ils l'ont reçu, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas, que le Saint-Esprit n'est pas avec eux. Oui, il est en eux. Il est en eux, ils ont accepté Jésus-Christ. Ils vivent peut-être pas les dons spirituels, ils vivent peut-être pas des moments glorieux quand ils sont remplis du Saint-Esprit, puis voient des choses extraordinaires se produire, mais ils marchent par la foi, puis ils ont été nés de nouveau, ils sont sauvés. Faut pas juger tout le monde à cause qu'ils sont pas remplis. On n'a pas à les juger, on n'a pas à juger dans le sens de critiquer, mais on a analysé pour enseigner les vraies affaires, pour renverser les faux raisonnements, puis amener le monde à croire en la bonne affaire. Même si on aurait abandonné le Seigneur, mettons quelqu'un arrive, là je suis tanné, moi je lâche tout, puis je te lâche, Seigneur. Là, il lâche. Parce que c'est là, il dit, c'est détourné de la foi. Est-ce que c'est définitif qu'il va l'avoir perdu? Non. Pourquoi? Exact. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Jacques 5, 19, ça nous dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous, un chrétien déjà sauvé, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. C'est extraordinaire. C'est ça la grâce. L'enfant prodige, là, c'est ça. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était plus dans la proximité de son père, le fils prodigue. Il était plus en communion avec son père. Il profitait plus des biens de son père. Il est parti avec ce qu'il avait. Il a tout fripé. Puis après ça, il vivait dans la débauche. Puis après ça, il était dans une vie misérable sans les bénédictions que son père aurait pu lui procurer. Puis ça l'a privé lui. Puis ça a privé aussi son père, qui était fortement attristé de l'état de son fils. Mais quand le fils est revenu, le père, il a-tu mis un paquet de bêtises, puis il dit, reste chez vous, t'es parti, arrange-toi de tes troubles, trop tard, il n'y a plus rien à faire. Non! Tant que t'es vivant, tu retournes au père, puis il te reçoit les bras ouverts, il va te donner la robe blanche, il va te donner la bague en signe d'alliance, il va tuer le veau gras, il va faire la fête. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ça dit pas que le père était pas joyeux des 99 qui étaient là. Non, mais ça lui cause encore plus de joie quand il y en a un qui revient de sa mauvaise voie, puis qui revient dans les voies du Seigneur. Dieu le raccepte, il le restaure, il le remplit du Saint-Esprit, puis il délie, puis il fait le ménage. Gloire à Dieu, merci Seigneur. C'est ça la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Que dit la Bible sur les promesses de la présence de Dieu avec nous? Y en a-tu des promesses dans la Bible qui nous dit que Dieu est avec nous? Ah, là on commence, mais il est pour nous, c'est déjà, c'est ça. Celle-là, il n'y a pas rapport. On parle, quelles sont les promesses que Dieu a faites pour nous dire qu'il sera avec nous? Dans Jean 14, 23, Jésus répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Êtes-vous de ceux, faites-vous partie de ceux qui aiment sa parole?
Amen.
Faites-vous partie de ceux qui aiment Jésus-Christ?
Amen.
Ben, Dieu vous aime. C'est ça, ce verset-là vient de nous dire. Puis Dieu, en plus de ça, il vous dit qu'il a décidé de faire sa maison chez vous. Que le ménage soit fait ou pas fait, ça ne dérange pas. Soyez pas gênés que votre ménage n'est pas fait dans la maison. Mais Dieu, il est là chaque jour, puis il vous regarde. Puis il est là, puis il est content d'être là. Parce qu'il voit que tu aimes sa parole, tu aimes Jésus, il t'aime. C'est, il est là. Gloire à Dieu. Oui, ça, il faut continuer à revenir à ça. Vu qu'on réalise que la présence de Dieu est là, il y a peut-être des choses qu'il faut jeter dehors de notre maison, des choses que Dieu aime pas. Il y a peut-être des passes à tes vies qu'il faut revirer parce qu'il y a des souilleux dans ça, puis ça, Dieu n'aime pas ça quand il regarde, qu'on regarde ça. Il y a toutes sortes d'affaires qu'il faut faire le ménage, de marcher avec crainte. Ce Dieu-là est avec nous dans la maison, là, même quand on est tout seul. Jean 14, 16, ça j'en ai mentionné, mais ça n'est une autre promesse de la présence de Dieu avec nous. Jésus a dit, « Et moi, je prierai le Père, puis il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne voit point, puis il ne connaît point, mais vous, vous le connaissez. » Vous le connaissez. Mais pourquoi qu'on le connaisse? Car il demeure avec vous, puis il sera en vous. Wow! Jésus nous rajoute, dans le même verset, « Je vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Il dit, je vais prier le Père, vous allez recevoir un consolateur, puis il va demeurer avec vous, il sera en vous, et je viens à vous. Jésus est dans le Saint-Esprit qui rentre en nous, puis il est avec nous, en nous, il nous accompagne, il demeure avec nous. Gloire à Dieu! Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je te délaisserai point, je t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, et que peut me faire un homme? Dieu nous a dit, je te délaisserai pas, puis je t'abandonnerai pas. Voilà comment parle quelqu'un qui est convaincu de la présence de Dieu. C'est Paul qui parle, dans Romains 8, 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il y a l'assurance que rien peut nous séparer de son amour. Tant que tu demeures dans sa parole, Dieu t'aime, puis Dieu demeure avec toi, il n'y a rien d'autour qui peut t'en séparer. C'est là que rentre le point, nul ne les ravira de ma main. Personne ne peut te toucher, à moins que Dieu le permette, mais personne ne peut te toucher, tu es la propriété privée de Dieu. Dieu a mis son sceau sur toi, c'est son Saint-Esprit, propriété privée de Dieu qui était tempé direct dans le front ici. On appartient à Dieu.
Gloire à Dieu,
puis prend soin de ses serviteurs et ses servantes comme si c'était la prunelle de son œil. Ça, c'est ça, la prunelle, là. C'est celui qui touche à un de mes enfants, c'est comme s'il touche à la prunelle de mon œil.
C'est important, les yeux.
Oui. C'est pour nous, c'est important, les yeux, mais Dieu aussi, c'est important pour lui, chacune de ses brebis. C'est à Romains 8. Un dernier passage qui nous explique comment est-ce qu'on devrait penser. quand on parle avec l'assurance que Dieu est avec nous. On va aller lire un psaume. Tous ensemble.
Tous ensemble,
le psaume 23. Pas grave, on va réfléchir, on va repenser tout haut. Les versets de 1 à 6.
1 à 6?
Oui, c'est les 6 versets du psaume. Puis ça, c'est un chant que David a composé. Puis David, lui, le croyait ce qu'il disait. Il vivait. C'est pour ça qu'il avait un cœur selon Dieu. Oui. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Amen.
Voyez-vous, dans ce passage-là, comment est-ce que David était conscient de ce que Dieu faisait? Comment est-ce que Dieu t'approche dans sa vie? Puis que tout ce que Dieu pouvait faire dans sa vie, non seulement il réalisait, mais il était capable de l'écrire pour qu'on puisse l'avoir aujourd'hui, 3000 ans plus tard. Il dit, Dieu, c'est mon berger, c'est celui qui me guide, qui est là après autour de moi, puis qui m'emmène dans les verts pâturages, je manquerai de rien à manger. Il nous dit au verset 2, il me fait reposer. Dieu me donne du repos. Puis il se dit, il me dirige. Verset 3, il restaure mon âme. 3, il me conduit. 4, il est avec moi. 5, il dresse devant moi une table. 5, il oint d'huile notre tête et notre coupe déborde. Ça, c'est l'onction du Saint-Esprit. Puis là, ça nous dit qu'il va avoir le bonheur puis la grâce tous les jours parce qu'il est dans la maison de l'Éternel, il est dans la présence de l'Éternel. Puis qu'est-ce que je vous disais tantôt? Dieu est avec vous puis il demeure chez vous. Fait que tu n'as que le bonheur de savoir que Dieu est avec toi puis t'es sous la grâce. Le bonheur, ça, c'est être heureux, puis la grâce, les cadeaux de Dieu, la bénédiction, la provision de Dieu. Dieu pourvoit, puis Dieu prend soin, puis Dieu nous panse nos plaies, puis nous guérit, puis il nous conduit, puis il nous oint de son onction, puis il nous met en face de nos adversaires, il nous bénit même en face de nos adversaires, comme quoi ceux qui nous en veulent, ceux qui nous haïssent, on est sous la bénédiction, puis il met à table devant nous, puis on a tout ce qu'il nous faut. Puis Dieu nous accompagne tous les jours de notre vie. N'est-ce pas extraordinaire de voir comment Dieu y est proche, puis qu'il est avec ses enfants? Le titre du message, c'était « Saisissez les promesses de Dieu pour avoir l'assurance que Dieu vous accompagne. » Je vais faire une prière en cas qu'il y en a des gens qui écoutent le message présentement, mais qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, qui aimeraient ça faire la paix avec Dieu, qui aimeraient ça recevoir le pardon de leurs péchés et pouvoir recevoir le Saint-Esprit afin que Dieu soit avec eux. Je vais faire une prière, puis je vous demande de répéter cette prière. Père, je reconnais que je suis un pécheur. que je suis un perdu. Ta Bible me le confirme. Mais je crois aussi que Jésus-Christ est venu voilà 2000 ans, qu'il est mort sur la croix, il a versé son sang, il est ressuscité pour que je sois sauvé. J'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, comme mon Seigneur. Je veux le suivre, le servir tous les jours de ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit afin qu'il me conduise dans les sentiers de la vie éternelle. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu l'a entendu et que cette nouvelle vie est commencée. Il vous a pardonné vos péchés, il vous a donné le Saint-Esprit, vous lui appartenez. Gardez la foi, gardez cette foi, persévérez dans cette foi jusqu'à la fin de votre vie. Laissez-vous pas voler les promesses de Dieu. Continuez à méditer à ce que Dieu vous a donné dans ces belles promesses-là qu'on a vues aujourd'hui. Puis gardez le cap de marcher jusqu'à ce que Jésus vienne vous chercher. Puis vous allez faire partie de ceux qui vivent l'histoire sans fin dans la vie éternelle.